Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous savoir très nombreux à l'écoute de Patara. Le débat politique de Radio Ndekoluka, comme annoncé, nous nous intéressons au bilan de l'an 1 du Premier ministre Félix Moulouya aux commandes du gouvernement après la démission de son prédécesseur Henri-Marie Dondra. Le président de la République l'a nommé le 7 février 2022 Premier ministre, chef du gouvernement cumulativement avec le ministère du Plan et de l'Économie pour ce qu'il occupe depuis 2016 jusqu'à présent. Durant un an comme locateur de la primature, son gouvernement connaît une tension de trésorerie sans précédent liée par une diplomatie tendue avec des partenaires socio-économiques. Conséquence, le pays a connu une pénurie de carburant qui a donc entraîné l'inflation des prix des denrées alimentaires sur les marchés, la résurgence des violences armées dans certaines régions du pays, la dégradation avancée, j'allais dire, des routes dans la capitale et à l'intérieur du pays. Félix Moulouya et son gouvernement font face désormais à une crise sociale. Les enseignants du secondaire, tout comme le personnel soignant, menacent d'observer une grève illimitée pour pousser les autorités à améliorer leurs conditions de vie. Question Patara du jour. Après un an aux commandes du gouvernement, quel est le bilan du Premier ministre Félix Moulouya sur le plan économique, diplomatique et sécuritaire? Que faire pour sortir de cette situation? Voilà l'ossature du débat politique. Et pour en parler, je reçois Fidèle Gwandika. Bonjour, ministre conseil spécial du président de la République. Faustin Kantadira.
Bonjour.
Bon retour parmi nous.
Merci de m'avoir invité.
Et M. Joseph Bindunga, député de Bimbo 3, président du parti MDRC, membre de l'opposition démocratique. Monsieur le député, bonjour.
Bonjour Armando, bonjour M. Fidèle Ngwandika. C'est avec beaucoup de joie que je vous revois. Vous avez été pendant longtemps hospitalisé en Europe et Dieu merci, vous êtes rentré. Que Dieu qui vous a gardé en vie vous protège.
Et amen, amen.
À tous les auditeurs de Ndekeluka, à tout le monde qui est autour du plateau avec nous, bonne et heureuse année 2023, même si nous sommes aujourd'hui un 11 février.
Une fois de plus, bonjour à toutes et à tous. Le débat s'est après cette courte pause, mais avant tout, la partie technique est assurée par David Bema. Tout de suite, nous lançons le débat.
Vous écoutez Patara, le débat politique sur Radio Ndekeluka.
Ouvrons le bal avec la conférence de presse que le Premier ministre Félix Moulouya a personnellement animée jeudi sur son bilan d'un an. Compte rendu d'Igor Descansinapaï.
12 mois après sa nomination par le président Faustin Archange Touadéra, Félix Moulouya peine à convaincre l'opinion sur ses réalisations concrètes présentées devant les députés dans sa déclaration de politique générale 3 mois après son accession à la primature. L'augmentation des prix du carburant à la pompe défraie encore la chronique dans le pays car le faible pouvoir d'achat de la population ne permet pas de faire face à cette inflation. Le chef du gouvernement n'a pas abordé cette question dans son intervention de plus d'une heure devant la presse. Aucune donnée chiffre sur les finances publiques n'a été présenté pour édifier le public. L'actuel ministre du Plan met en exergue la lutte contre la corruption, les versements réguliers des salaires malgré les retards comme effort non négligeable de son gouvernement. Le chef du gouvernement appelle à un sursaut national pour sortir de l'ornière.
Si nous sommes ensemble et que nous nous mettons au travail, que nous assumons le suivi de ce que nous avons tous arrêté, nous pourrons sensiblement améliorer les conditions d'existence de nos compatriotes. Je pense également que nous devons renforcer la coopération internationale, améliorer le dialogue avec nos partenaires, diversifier le partenariat. Je pense également que nous devons travailler pour faire la promotion du secteur privé, que le secteur privé joue son rôle. Parce que la création de la richesse, c'est le secteur privé. Ça veut dire qu'il faut les instruments juridiques pour améliorer l'environnement des affaires. Il y a des choses qui ont été initiées. Nous sommes pour parler avec le Parlement. Ne serait-ce que la loi sur la sécurité juridique et judiciaire. Cela, pour nous, est bon. Il pourra attirer, faire de d'autres secteur privé plus attractif.
La tension sécuritaire dans certaines villes de province, notamment l'attaque du poste des douanes de Beloko en janvier dernier, reste et demeure pour lui un acte de sabotage des ennemis de la paix. Félix Moloa s'est réjoui des réalisations au niveau du ministère de la Santé publique, ce qui, selon lui, contribue à l'amélioration des prestations sanitaires. Le RCPCA reste un outil de développement des références, selon lui, car plusieurs réalisations en cours dans le pays viennent de ce plan de relèvement et de consolidation de la paix.
Merci, Gorgias Kansinapai. Merci à vous pour ce compte rendu. Mais avant cela, je tiens à vous informer et à informer nos internautes et toujours le public centrafricain, les auditeurs, que nous avons tout fait pour avoir quelqu'un, membre du gouvernement, autour de la table pour nous parler de ce bilan d'un an du Premier ministre. Malheureusement, au dernier moment, le ministre de la fonction publique, Marcel Dimassé, désigné pour ce débat, nous a faussé compagnie. Et merci beaucoup à vous, monsieur Fidel Gwandjika, de toujours nous inciter au dernier moment pour ce genre de débat. Mais avant tout, je vous donne la parole pour que vous-même vous regardiez tout ce qui se passe avec le reportage que vous venez d'écouter sur une partie d'ailleurs du bilan du Premier ministre. Mais je vous rappelle que nous avons trois piliers retenus pour ce débat, à savoir l'économie ou les finances, la diplomatie et la sécurité. Tout cela, nous allons passer en revue pour voir, un a déjà passé à la primature, à la tête du gouvernement centrafricain. Qu'est-ce qu'il reste à faire? Et selon vous, est-ce qu'il y a des avancées, monsieur Gwandjika?
Merci Armando de m'avoir invité, un extrémiste comme d'habitude. Je voudrais, avant de répondre à votre question, souhaiter la bonne année au peuple souverain, aux centrafricaines et aux centrafricains, et les remercier vivement pour leurs prières. Dieu a écouté leurs prières et je suis maintenant parmi vous. Je remercie sincèrement du fond du cœur le député de la nation, Joseph Bendunga, qui m'a appelé souvent quand j'étais sur le lit de l'hôpital. J'ai eu vent de tout ce qu'il a dit concernant mon séjour à l'hôpital. Je le remercie pour ses prières et je vais devoir me prêter à répondre à vos questions. On ne peut pas faire le bilan d'un Premier ministre. Un Premier ministre, à peine un an, il a été nommé. Parlons du bilan du président de la République. Parce que c'est lui qui est élu, c'est lui que le peuple lui a fait confiance et lui a donné les gouvernails du bateau Centrafrique. Et donc, les choses vont bon train. Vous savez très bien que notre pays n'obtient plus de subventions d'aucun pays depuis 2019. Depuis 2019, la France a coupé le cordon ombilical à la République centrafricaine de manière brutale. Et donc, depuis cette date, le président de la République avec ses différents gouvernements ont tout mis en œuvre pour que le centrafricain ne souffre pas. Les salaires sont régulièrement payés, les pensions, les indemnités des députés, les bourses et les dépenses régaliennes sont toujours données par le gouvernement, malgré le fait que le monde entier connaît des difficultés énormes. Des difficultés énormes, en commençant par le Covid, et actuellement le conflit entre la Russie et l'Ukraine. Nous avons vu que sur le plan social, il y a ce qu'on appelle la démocratie sociale. La Constitution donne le droit à la société civile, à la société civile. J'entends par la société civile les syndicats, les différentes organisations sociales, d'observer des grèves si ces sociétés, si cette société pense que ce que le gouvernement fait pour elle ne suffit pas. Et ça, ce n'est pas seulement une spécificité de la République centrafricaine. Voyez-vous, en Occident, en France et ailleurs, les gens font la grève parce qu'on leur demande de travailler pour aller à la retraite à 64 ans, 67 ans, alors que chez nous ici, les gens pleurent pour travailler jusqu'à même 70 ans. Les gens là-bas, ils veulent pas aux États-Unis. Les gens ne sont pas contents de ce que fait le régime de Biden. En Russie, pareil. En Ukraine, la société civile s'érige contre le président Zelensky pour combattre la corruption. Chez nous aussi, la corruption gangrène le pays. et le gouvernement de Moloa se bat.
Mais sur le plan économique, je pense que vous avez beaucoup énuméré beaucoup de points qui vont peut-être nous faire perdre dans les explications que vous avez données. Mais sur le plan économique, comme nous l'avons dit, vous avez vu que malgré tout cela, le pays n'a pas de subventions. Vous avez dit, la France et bien d'autres partenaires de la République centrafricaine ont suspendu le financement à la République centrafricaine. Mais est-ce que ces exigences que ces partenaires ont posées ont-elles été respectées par le gouvernement?
Non. La RCA a connu beaucoup de ce genre d'exigences imposées par les institutions du Bretton Woods. Mais en ce qui nous concerne, il ne s'agit pas des exigences économiques. Il s'agit en quelque sorte une sorte de politique cachée. Parce que on dit que nous avons une armée non conventionnelle chez nous. On les appelle des Wagner. Et on pense que les subventions qui sont données à la République centrafricaine ou le fruit du labeur des centrafricains, c'est-à-dire de la douane, des régies de finances, une bonne partie sert à payer les milices Wagner ou les Rwandais ou les forces non conventionnelles qui sont chez nous, alors que ce n'est pas vrai du tout. Ils campent sur cette position conduite par des puissances occultes et étrangères pour...
Mais vous avez vu déjà, nous savons que nous pressentons, M. Bendunga, les conséquences de toutes ces décisions aujourd'hui sur le quotidien avec la charité de vie, avec ce que vous avez écouté comme le reportage, M. Bendunga, sur le compte rendu d'une partie du bilan du Premier ministre un a passé aux commandes du gouvernement centrafricain. Que direz-vous?
Merci Armando. Je suis sur une autre planète en écoutant mon frère Fidèle Ngwandjika. Très sincèrement, je pense qu'on est en train d'amuser la galerie et non de répondre aux attentes du peuple centrafricain que vous avez transformé en cette série de questions et d'interviews que votre collègue qui a participé, M. Senapai, qui a participé à l'interview, a eu à dire. Je pense que la République centrafricaine a failli. Comme il a dit que c'est Touadéra. Touadéra a failli à sa noble mission. Et lorsque j'entends M. Ngwandjika dire qu'on ne peut pas évaluer un Premier ministre qui vient de finir sa première année aux commandes du pays, mais c'est dire qu'un pilote qui vient de décoller, qui a pris les commandes d'un avion, on ne peut pas le juger. C'est très, très, très regrettable. La République centrafricaine est tombée très bas. La République centrafricaine est tombée très bas sur tous les plans. Et à la place de Moloa, je ne tiendrai pas cette conférence de presse. Je rendrai ma démission à M. Faustin Archange Touadéra. Je tire ma révérence. Et je vais m'occuper de ma ferme. Lorsque j'entends M. Moloa se féliciter d'avoir versé régulièrement les salaires, que voilà, il a eu à vraiment bien travailler, et j'ai pitié de cet homme politique, qui ne l'est pas, c'est pas un homme politique, mais c'est un aventurier qui a essayé de jouer avec le peuple centrafricain. Et la réaction, lorsque j'entends M. Ngwandjika dire que les grèves sont normales, en France, les gens manifestent pour quelques années. Et les choses marchent en France. Tout le monde est payé en France, et même les chômeurs.
Mais pourquoi toujours prendre l'exemple de la France,
puisque Ngwandjika a parlé de la France.
De beaucoup de pays.
Vous avez parlé de la France, de l'Ukraine,
des États-Unis, de l'Ukraine,
de l'Europe.
Ça,
hein.
Je pense que l'Ukraine, lorsqu'il évoque l'Ukraine, il a oublié de dire que l'Ukraine a été attaquée, envahie, a failli disparaître. Parce qu'un État terroriste, la Russie, a eu à envahir un pays qui ne lui a pas fait un seul mal.
On n'est pas sur ce dossier.
Je reviens.
Je vous en prie.
Je reviens. Donc, c'est dire que M. Moloa n'a pas dit la vérité au peuple centrafricain. Mais la réalité est en train de rattraper M. Moloa. Si vous voyez le mécontentement, est-ce que... La question à poser à M. Ngwandjika, est-ce que le mécontentement des centrafricains qui sont mis en grève ou qui se préparent à rentrer en grève sont fondés? Si elles sont fondées, c'est que le gouvernement a mal travaillé. Et lorsqu'un gouvernement a mal travaillé, l'homme qui dirige le pays, le président de la République, doit démettre ce premier ministre-là et donner la possibilité à d'autres citoyens centrafricains de faire leurs preuves. L'argentier centrafricain, je voulais parler de M. Ndoba. Lorsqu'il est venu devant l'Assemblée nationale avec le projet de budget de l'année 2023, l'argentier a tiré la sonnette d'alarme. Il a dit « Attention, il n'y aura pas d'argent. Il n'y aura pas d'argent. Il faut qu'on resserre les ceintures pour pouvoir traverser cette période de vache maigre. » Malheureusement, si vous voyez bien, le budget de l'année 2023 du gouvernement, de la primature, de la présidence de la République, de l'Assemblée nationale, c'est pratiquement... lui, il a joué à l'acrobate, il a descendu ça de quelque chose qui est descendu à 9 milliards quelques poussières. Quant à l'Assemblée, c'est un peu majoré, c'est pratiquement rien. Quant à la présidence, eh ben, c'est resté la vache à lait de ceux qui dirigent ce pays. La primature n'a même pas besoin d'un milliard pour tourner pendant l'année au lieu de 9 milliards. Donc vous voyez, rien n'a été fait. La gabégie, on a recruté les militants pour remplir les départements, remplir l'Assemblée nationale. Il y a même des gens qui sont payés à l'Assemblée nationale pour s'asseoir à côté du tableau d'affichage, pour pouvoir deux personnes qui sont là lorsque vous venez lire sur le babillard, qui lèvent les yeux pour vous regarder, de regards croisés, et sont payés à la fin du mois. Il y a des gens qui sont là, qui flânent, qui traînent, et c'est comme
monsieur,
si...
Monsieur Benouga, à travers les différentes initiatives du gouvernement, entre autres l'augmentation des prix du carburant, l'augmentation des taxes de communication, des impôts et bien d'autres, peut-on espérer un avenir radieux pour la population après ce moment de tension sociale?
Le peuple centrafricain qui est poussé, qui est complètement essoufflé, affaibli, affamé, incapable de se soigner, même d'aller au travail, on lui a encore pris le peu qui lui reste. C'est tuer le peuple centrafricain. Vous voyez, le ministre de la Communication a promis aux centrafricains que quand on va rentrer dans l'année 2023, les communications, tant sur l'Internet que tout ça, vont baisser. Malheureusement, c'est le contraire qui s'est produit. Lorsque vous activez la passe pour 1500 francs, vous allez lire que vous dépensez 1500 francs pour communiquer et vous devez verser 90 francs à Touadéra pour qu'il bouffe ça. Et aujourd'hui, c'est une sorte de pillage organisé des centrafricains qui ont eu le malheur d'élire un certain Touadéra comme président de la République. Et je vous dis, mon frère du kilomètre 5, quand Touadéra battait campagne, il est allé devant nos frères de la communauté musulmane au kilomètre 5 pour leur dire « Je serai un bon président de la République ». Si jamais je me trompais, que Dieu me punisse. Et Dieu qui a écouté ce que Touadéra a dit à la mosquée centrale, aujourd'hui nos frères du kilomètre 5 pleurent, nos frères de toute la République centrafricaine pleurent, et c'est le peuple et le ministre le ministre du pétrole.
Le ministre de l'hydraulique.
De l'hydraulique.
Monsieur, vous voulez parler de qui? De monsieur Arthur Bertrand Piri.
Oui, Bertrand Piri a dit que ils ont augmenté le prix du carburant pour avoir l'argent pour pouvoir payer les fonctionnaires. C'est creuser un trou dans sa concession pour boucher un autre trou. C'est le peuple, centrafricain en entier, y compris ces fonctionnaires-là, qui ont été pensionnés pour pouvoir remplir les caisses
monsieur
de
Gwandika,
l'État.
La même question pour vous, avec toutes les initiatives prises par le gouvernement quant à ce qui concerne l'augmentation des taxes de communication, des impôts, du carburant, etc. Est-ce que vous pensez qu'après cela, puisque vous avez dit tout à l'heure que nous sommes en train de traverser un moment de turbulence, est-ce qu'on peut espérer, in fine, une paix pour toute la République centrafricaine et un avenir radieux, un avenir meilleur?
Je vais d'abord répondre à M. Bendunga concernant le budget. Et il dit qu'une grosse part de ce budget-là est partagée dans quelques 4 ou 5 institutions. Mais le budget n'est pas voté par le gouvernement. Le budget est voté par les élus du peuple dont il fait partie. quand le budget est voté, c'est voté par les députés de la nation et le président ne fait que promulguer. Et c'est aux députés de suivre l'évolution ou
les dépenses
par rapport à ce budget. Si Bendunga et les autres députés ne font pas leur travail correctement, ici, à Ndekeluka, ce n'est pas le lieu de faire une campagne. Nous ne sommes plus en campagne électorale. Et il demande la démission du Premier ministre. Ce n'est pas lui qui a nommé le Premier ministre, c'est pour qu'il demande sa démission.
Le Premier ministre n'est pas le pilote du pays.
Le pilote du pays, c'est le président de la
République. Et donc, selon vous, vous ramenez tout ce qui se passe aujourd'hui sur le président de la République.
Le bilan que nous sommes en train
pour vous,
de voir.
Vous avez dit c'est pour le président de la République.
Bilan du président de la République.
Avec tout ce que nous sommes en train de
développer. Le Premier ministre et les ministres ne sont là que pour exécuter ce que le président de la République a édicté. Voilà.
C'est le pouvoir qui leur est délégué.
Voilà. Non, mais souffrez que je termine.
Sur ce point-là.
Les gens qui sont en grève.
Sur ce point-là.
Les gens qui sont en grève.
Mon frère,
ils ne
attendez,
sont pas.
Attendez, mon frère. Attendez.
Quand vous parlez pendant 10 minutes.
Permettez-vous
Je vous réponds. Vous allez répondre.
Je le sais.
Vous allez répondre.
Vous savez.
Souffrez.
Les gens.
Acceptez, monsieur Ngwandika, que je réponde à cela pour que les auditeurs de Radio Ndekeluka.
Très rapidement,
vous avez tout le temps de répondre.
Écoutez,
vous avez tout le temps.
Voilà. Non, s'il vous plaît, mon frère. Restons sereins. C'est un débat.
Mais c'est vous qui n'êtes pas serein.
Non, restons sereins.
Laissez-moi terminer et vous allez terminer.
C'est sur ce point. C'est sûr. Parce que.
Répondissez rapidement pour qu'on gagne du temps. Vous voulez dire quoi par là?
Monsieur Ngwandika vient de dire aux Centrafricains que c'est pas à monsieur Moloua qu'ils doivent s'adresser, qu'ils doivent réagir, mais c'est contre Touadéra.
Je n'ai pas dit contre Touadéra, vous voyez. Il est en train de transvertir les mots.
Non, mon frère.
Le pilote du pays, il n'y a pas deux pilotes, il n'y a pas deux capitaines d'avion. Vous avez fait allusion à un avion. Le pilote de l'avion, c'est le président de la République. C'est pas le Premier ministre ou le 30e ministre.
Qui gère le pays? C'est le gouvernement. Et si le gouvernement a failli?
Qui contrôle les actions du gouvernement? C'est l'Assemblée nationale. C'est parce que vous avez failli. Vous ne savez pas prendre le président.
Pardon, s'il vous plaît. Quelle est la majorité à l'Assemblée nationale? MQ.
Vous êtes des amis et des députés là-bas sont payés pour voter
la mort des Centrafricains.
Vous reprenez la parole, monsieur.
Aucun pays du monde n'est à l'abri des difficultés économiques et sociales.
Vous revenez sur ma question.
La République centrafricaine est en difficulté comme tous les autres pays du monde. Mais malgré ces difficultés, le président de la République et son gouvernement mettent tout en œuvre pour que le peuple souverain soit à l'aise. Il y a des grèves par-ci, par-là, mais ce sont des grèves normales.
Et selon
ce sont
vous,
des grèves
pour que le peuple soit.
Les gens demandent.
Le président fait tout
leur statut
particulier pour mettre le peuple à l'aise. Vous l'avez dit avec l'augmentation du carburant, l'augmentation des taxes sur les impôts,
mais
les taxes de communication, etc.
On y reviendra.
C'est sur cette question que je vous ai posée tout à l'heure.
Depuis toujours, c'est le gouvernement qui subventionne le carburant à la pompe. Voyez-vous, lorsque Monsieur Bendunga, qui a une grosse 4x4, qui achète, je donne un exemple, un véhicule 4x4. C'est qu'il a l'argent pour acheter un véhicule 4x4 qui fonctionne avec du gasoil. Avant ce que vous qualifiez d'augmentation et que moi, je qualifie de qu'il n'y a pas eu d'augmentation. Avant cette histoire-là, lorsque Bendunga achète 10 litres de gasoil, il payait 8800 francs à la pompe. Mais le président, le gouvernement sort encore 9000 francs en plus pour payer aux marketeurs.
Pour compléter.
Lorsque les gens de Munisca, lorsque tous les étrangers qui sont chez nous, tous les députés, tous les ministres, les gens qui ont des grosses cylindrées achètent du carburant, c'est l'État qui paie le carburant à leur place.
Mais c'est depuis longtemps, c'est pas aujourd'hui.
Depuis
à l'époque du président Patassé, président Bozizé et bien d'autres.
On ne parle pas du président Bozizé ni du président Patassé.
Oui, mais
nous parlons du présent.
Puisque cette affaire, ça a duré, ce n'est pas aujourd'hui.
Non, mais quand ça a duré, il n'y avait pas la crise
mais
de
pourquoi
l'Ukraine. Il n'y avait pas la crise de l'Ukraine. Il n'y avait pas la crise pétrolière. Il n'y avait pas la crise financière comme nous le vivons aujourd'hui. Il n'y avait pas eu de Covid. Donc, voyez-vous, aujourd'hui, nous n'avons plus de subventions. Et nous cherchons tout ce qu'on appelle les niches fiscales pour boucher les trous. Donc, on a trouvé nécessaire judiciaire approuvé par la Banque mondiale et le FMI, pour ne pas dire les institutions du Bretton Woods, de cesser de subventionner le carburant. Vous gagnez 1 million, vous allez acheter du carburant et c'est le gouvernement qui vous paie le carburant.
Est-ce que maintenant
ce que nous regrettons, c'est le pétrole lampant. C'est le pétrole lampant qui était normalement à 1000 et quelques francs le litre et que l'État subventionnait une part et le paysan achetait à 500 francs. Aujourd'hui, l'État ne peut plus subventionner, donc on a remis le prix réel à la place. Ce que nous consensons aujourd'hui, les 1400 francs du gasoil, les 1300 francs du super, ce sont les vrais prix réels. Mais
face à la chérité, monsieur Guantica,
l'argent que l'État récolte.
Vous pouvez souffrir que je pose ma question. Ça vous permettra de bien répondre la lanterne, pour la compréhension du peuple centrafricain.
Voilà.
Je disais tantôt que face à la chérité de vie décriée par les agents et fonctionnaires de l'État, le gouvernement durcit toujours sa position. Pourquoi la plupart des décisions prises par le gouvernement d'une manière unilatérale? Ce qui traduit déjà, vous avez compris, vous-même vous l'avez soulevé, la grogne des enseignants, du secondaire et bien d'autres. Est-ce que tout cela, comme vous l'avez dit, en prenant toutes ces décisions, est-ce qu'on a préparé la population par rapport à tout ce que vous avez dit, les décisions?
Vous savez, certaines décisions ou certains décrets peuvent être impopulaires. Peuvent être rendus impopulaires par les médias, par les personnalités comme M. Bendunga, par l'opposition démocratique, par les gens qui prennent les armes. Et ils peuvent rendre ces décisions impopulaires sans pour autant savoir quelles sont les retombées bénéfiques pour le peuple souverain. Le bénéfice de ce que vous appelez cette augmentation. Mais va dans les caisses du trésor public pour payer les salaires. Le salaire, c'est le plus grand montant mensuel que l'État injecte dans l'économie du pays.
Et déjà, les enseignants du supérieur demandent l'augmentation de salaire.
Les enseignants du supérieur demandent un statut particulier.
Certainement, ça va entraîner qu'il y aura un effet financier.
Ça va arriver. Ces choses-là vont arriver lorsqu'on aura mis en fonction toutes nos richesses naturelles. Le pétrole.
Quand?
Le manganèse.
Quand?
Mais rien ne se fait en claquant un seul doigt.
Non, est-ce qu'il y a une projection?
Nous avons... Mais écoutez, les lois que mon frère Bendunga et les autres députés votent, c'est des lois qui sont votées pour aujourd'hui et pour l'avenir.
D'accord.
Et donc, il faut quand même un temps pour que le pays...
Il y aura, mais toujours...
Quand vous construisez une maison, vous commencez par la fondation jusqu'à ce que vous terminez avant...
Mais il y a un programme, il faut programmer. Voilà. Il faut fixer une date provisoire.
Attendez la fin du mandat du président de la République pour lui demander, on vous a redonné 5 ans. Au bout de ces 5 ans-là, qu'est-ce que vous avez fait?
Vous avez la parole, monsieur Bendunga, sur ce que vous avez écouté, si vous voulez rebondir. Mais déjà, avec les décisions prises par le gouvernement, quant à ce qui concerne l'augmentation du carburant, et nous avons vu qu'il y a déjà des grands par-ci et là, est-ce que cette décision prise reflète la réalité du peuple centrafricain? En prenant cette décision, est-ce qu'on a pris le temps pour expliquer, comme monsieur Guadjika est en train d'expliquer, la quintessence de toute cette décision au peuple?
Non, monsieur Armando. Les gens qui ont pris cette décision, et le plus concerné, M. Faustin Archange Touadéra, c'est tranquillement que monsieur a dit, mais ces gens-là, je vais leur marcher dessus. Ils ont eu le malheur de m'élire et de me réélire président de la République. Je mange bien, je gracie bien, ils vont maigrir. Monsieur Armando, les grands fiscalistes disent que l'impôt tue l'impôt. Si vous voulez gagner beaucoup d'argent, faites attention de ne pas beaucoup soustraire au peuple. Et la réalité, c'est quoi aujourd'hui, M. Armando? On a augmenté le prix du carburant. Allez dans les stations voir combien de camions viennent acheter le gasoil. Allez voir combien de voitures, combien de taxis, motos viennent acheter le carburant. Je vous jure que la personne qui vous dira, qui nous dira aujourd'hui que y a la queue, les gens, pratiquement, il n'y a personne
mais parce que les stations sont achalandées.
Pardon, mon frère.
Voilà. Il n'y a plus de manque de carburant.
Est-ce que vous souffrez?
Les marketeurs ne se plaignent pas.
Allez-y, voilà. Monsieur.
Allez-y.
Vous avez fini. Oui. Les Centrafricains ne sont pas des imbéciles. Ce sont nos patrons. Et le peuple, Vox Populi, Vox Dei. la souffrance du peuple, le peuple sanctionnera Touadéra avec sa bande d'aventuriers. Aujourd'hui, les gens ne vont pas dans les stations pour acheter du carburant parce que ils ont limité, un, leur consommation. Le marché parallèle installé par Piri s'est développé et l'État, l'État ne perçoit pratiquement rien. Les recettes de l'État, telles que préparées par Piri, c'est lui qui a concocté cette salade amère là. Aujourd'hui, les gens n'achètent pratiquement pas le carburant à la pompe. J'ai fait l'expérience ces jours-ci d'aller acheter le carburant à la pompe. J'ai ici les chiffres et je me suis fait délivrer une facture. J'ai pris 40 litres. Voyons voir qu'est-ce que j'ai ici. Le gasoil. J'ai pris 2 fois 20 litres de gasoil. 40 litres. Cela, j'ai payé 52 000 francs.
Ben parce que vous en avez les moyens.
Attendez. Et parce que je ne veux pas détériorer
ma
pompe.
Fallait aller acheter chez ceux qui vendent du carburant frélaté.
Voyez-vous, devenez maintenant un conseiller qui combat celui qui achète du carburant à la pompe et qui paie des impôts à l'État.
Les gens ne vont pas acheter là-bas. Là.
Pratiquement, les gens n'y vont pas.
Mais non.
Les gens n'y vont pas et les gens prennent le risque d'acheter du carburant frélaté pour pouvoir faire tourner leur véhicule. Aujourd'hui, l'État n'arrive même pas à percevoir ce qu'il lui faut pour pouvoir payer les salaires. C'est dire que l'augmentation du prix du carburant, ça s'est retourné contre Touadéra et c'est comme le serpent qui se mord la queue. Et ce serpent s'appelle Touadéra avec Moloua. Donc, c'est dire que aujourd'hui, le budget de l'État est pratiquement vide. Nous tournons à crédit. L'État s'endette parce que les Centrafricains ne paient plus l'impôt. L'impôt tue l'impôt tellement on a augmenté les taxes. Vous allez voir que maintenant les gens pour téléphoner, pour se connecter, limitent leur consommation parce que c'est très cher. Et dans la journée, j'ai 2 fois fait 1500. Ça n'a même pas mis 30 minutes pour la première. Et la deuxième n'a pas mis 2 heures. C'est pour dire que, petit à petit, les gens vont fuir utiliser le téléphone.
Nous allons voir déjà qu'est-ce qui s'est fait, qu'est-ce qui a lieu faire. Et tout ce que nous avons vu avec les décisions du gouvernement, vous l'avez expliqué, parce qu'il y a la guerre en Ukraine, parce que le monde connaît une situation dramatique en ce qui concerne l'économie, etc. Mais déjà sur le plan national, 3 jours de grève du personnel soignant, ces 3 jours-là ont causé déjà beaucoup de dégâts collatéraux. Je vous invite à revivre le premier jour de la grève avec notre reporter François Kosimi-Palato.
La situation est alarmante. Des portes hermétiquement fermées, d'autres à moitié ouvertes. À l'hôpital de l'Amitié, Daniel Tangando est obligé de ramener sa grand-mère à la maison par manque d'assistance.
On m'a hospitalisé avec ma grand-mère depuis le 25 janvier et nous sommes sortis le 6 février. Nous sommes venus aujourd'hui pour le premier pansement, mais il n'y a aucun médecin. Donc nous allons nous débrouiller au quartier.
Au sein du service de réanimation de l'hôpital de l'Amitié, Claudine vient de perdre son père qui avait besoin d'assistance continue.
Même s'il y a la grève, il nous faut quelques médecins afin de veiller sur notre santé. Ils sont là, mais ils ne nous assistent pas. Voilà ce qui a causé la mort de mon père.
À l'hôpital communautaire, Lydie vient pour le suivi mensuel de son accident. À cause de la grève, elle n'a pas pu entrer en contact avec son médecin.
J'avais eu un accident et je fais mensuellement mon contrôle à l'hôpital. Quand je suis arrivée ce matin, on m'a dit que le personnel soignant est en grève. Il n'y a personne, tout est calme.
À quelques mètres de Lydie, nous croisons Christophe, père d'une fille victime d'un accident de la circulation. Le soin de sa fille est confié au service minimum.
Ma fille a été victime d'un accident, répétez-vous. C'est ça que j'attends du docteur. Puis avec leur histoire de grève, mais il y a aussi le service minimum. minimum qui est là et c'est ce que nous attendons.
À notre arrivée au complexe pédiatrique, le centre est désert. On nous apprend que les parents sont rentrés depuis le matin avec leurs enfants malades. Cette grève est effective alors que le ministère de la Santé a menacé hier de sanctionner ceux qui allaient l'observer.
Voilà, merci beaucoup à vous, Cosme Palato. Je vous donne la parole, monsieur Fidèle Gwandjika. Vous avez suivi ce reportage. En plus de ce que vous avez vu, Gwen, etc., difficultés de la population, mais cette situation vient s'ajouter. Quel commentaire faites-vous de ce que vous venez d'écouter?
Écoutez, ça, c'est les conséquences fâcheuses d'une grève. Et ceux qui ont fait cette grève-là, ils sont dans leur plein droit constitutionnel de faire la grève. Quand les magistrats font la grève, il n'y a pas de jugement. Quand les taximens et les gens de moto font la grève, les gens restent à la maison, ne peuvent pas aller au travail. Quand vous-même, ici en Dekuluka, vous faites la grève, les gens qui ont l'habitude de vous écouter pleurent parce qu'ils ne vous écoutent pas. Mais vous faites cette grève-là pourquoi? Pour demander l'amélioration de votre condition de vie. Et donc, le gouvernement a des oreilles pour entendre ça. Le chef de l'État est très sensible à ces choses. C'est pourquoi on cherche toujours à avoir une paix sociale avec les syndicats, avec les travailleurs. Mais quand il y a ces grèves-là, vous tendez le micro pour que le peuple souverain souffre encore en écoutant ses pleurs, les gens qui sont morts et tout ça. Là. Ça, ce sont des souffrances, c'est vrai. Est-ce que quand on fait la grève-là, la grève, l'hôpital, le parent du président ou le parent du député Bendunga, qui gagne plus d'un million de francs CFA par mois là. Est-ce que Bendunga va aller à l'hôpital? Il va prendre son enfant avec son million qu'il gagne par mois là pour aller dans une clinique soigner son enfant. Ces grèves là, ça touche les plus pauvres. Et donc l'État va tout mettre en œuvre pour que cette situation ne perdure pas et que les gens qui revendiquent leurs droits rentrent également dans leurs droits pour que le pays marche.
Mais est-ce que vous savez, voilà. Vous savez pourquoi, pour quelle raison le personnel soignant est entré en grève? Vous le
mais
savez
bien
très
sûr,
bien.
Ils cherchent un statut particulier. Et un statut
mais
particulier.
Ils ont parlé de trois points. Ils ont parlé d'abord de leur versement de
prime de COVID.
Mais si ça versait, pourquoi?
Particulier.
Où est parti cet argent?
Mais est-ce que vous avez vu l'argent? Parce que il y a certaines personnalités de l'opposition toujours qui disent, qui proclament haut et fort dans des discours populistes que les Nations Unies, que l'OMS a débloqué des milliards pour payer les gens.
Ah non, mais ceux qui...
Mon épouse travaille à l'Institut Pasteur,
ceux qui
et elle aussi, et les autres ont fait grève pour avoir cet argent-là. Et on leur a dit, mais demandez à la Banque mondiale, demandez aux fonds médicaux concernant les Covid. Il y a une certaine catégorie de personnel qui ont droit à ça. Ce n'est pas tout le personnel qui a droit aux primes de Covid. Mais c'est une affaire qu'il faut régler entre le ministère de la Santé et son personnel.
Est-ce que vous avez
aussi
suivi
la
réponse?
Il faut que la clarté soit faite dessus. Il faut que l'Assemblée nationale interpelle le ministre de la Santé. Parce que les députés représentent le peuple souverain. Ils ont été élus par le peuple souverain pour protéger ce peuple. Mais ils sont là avec les millions qu'ils gagnent par mois. Ils viennent en Dekuluka vociférer. C'est à l'Assemblée nationale qu'ils doivent interpeller le ministre de la Santé. Interpeller le ministre de la Santé pour lui dire.
Mais là, vous allez rebondir.
Parce que quand le ministre de la Santé viendra à l'Assemblée nationale, c'est tous les députés qui vont poser la question. Et c'est radio diffusé. Les gens vont écouter. Dites-nous où est parti cet argent. Hein? Moi, de haut de votre tribune, là, je l'interpelle en tant que ministre conseiller spécial du président de la République, docteur Somsé. Dites-nous où tu as enfoui cet argent. Est-ce que c'est vrai? Payez ces gens-là pour que nos compatriotes infirmiers puissent soigner les gens correctement.
Vous reprenez la parole,
c'est votre rôle, monsieur.
Vous l'avez déjà fini. Vous avez déjà dit.
Reprenez
la parole, monsieur Bendunga. Vous avez suivi le reportage.
Pas de venir dire des discours populistes et endommager.
Votre chrono est mis en arrêt. Oui, reprenez, monsieur.
Je vous remercie, monsieur Armando. Ben, vraiment, je m'incline devant tous les Centrafricains qui sont tombés suite à cette grève. Parce que les Centrafricains n'ont rien à voir avec cette misère qui a emmené le personnel soignant, les cadres des hôpitaux à cesser le travail pour que vraiment nous en arrivons là. Et Je supplie mes frères du ministère de la Santé, les médecins, commençant par les professeurs jusqu'au dernier garçon de salle et fille de salle, de penser au peuple et de mettre en place un service minimum pour pouvoir permettre de sauver des vies. Et je rebondis sur ce que M. Ngwandika a dit en s'en prenant au ministre de la Santé au lieu de s'en prendre à Faustin Archange Touadéra. Ça fait pitié. Il n'y a pas de fonction de ministre conseiller. Où on est ministre, où on est conseiller, et M. Fidel Ngwandika n'est que conseiller de M. Faustin Archange Touadéra. Le ministre de la Santé manque du respect vis-à-vis du personnel de la Santé. De un, il n'est que médecin. Or, le ministère de la Santé, ceux qui sont mis en grève, certains sont des professeurs. Beaucoup sont des professeurs. Et tous ces cadres-là ont souffert. Tous ces cadres-là sont mal payés. Tous ces cadres-là, avec l'augmentation du prix du carburant, tout ça, aujourd'hui, tire le diable par la queue. Et ils ont demandé au ministre. Le ministre qui a dit, mais moi je ne traite pas avec ces gens-là, ce sont des bons à rien. Et ces bons à rien-là, il les a sollicités pour lui permettre de concocter des programmes de travail.
Mais est-ce que mais vous avez
un discours populiste?
Calmez-vous. Sur ce point, Monsieur Benouga, est-ce qu'on ne peut pas déjà commencer à entamer des pourparlers avant, pour éviter
les dégâts? Voilà. Mais c'est ce que je dis. C'est là où j'en arrive. C'est que Pierre Somcé, lorsque le personnel de la santé, au lieu de les regarder avec mépris pour dire, moi je ne traite pas avec ceux-là, je vais les sanctionner, c'est de dire, mes frères, asseyons-nous autour d'une table. Notre métier là, c'est un métier vraiment très 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 sensible et c'est avec la vie des gens que nous jouons.
Il les a menacés.
Est-ce que ce sont des garçons de course de Monsieur Somcé pour que Somcé les menace de radiation, de ceci, cela? Et l'un de ses collaborateurs est allé dire à la radio, il est venu se justifier devant Dekeluka pour dire, mais moi, j'ai eu à dire à ces gens-là, s'ils blaguent, j'irai dire à Pierre Somcé pour les sanctionner. Ça c'est, et vous voyez, c'est que Somcé n'est pas à la hauteur des hautes fonctions de ministre de la Santé. Parce que lorsqu'on ne veut pas négocier avec le personnel de la santé, mais ce sont les patients qui en subiront les conséquences.
Vous dites une contre-vérité.
Et les conséquences,
la négociation est entamée depuis longtemps.
Vous savez, est-ce que vous savez aussi que les trois jours de grève entamés
vous voyez mon temps de parole.
Allez-y, gagne du temps.
C'est dire que aujourd'hui, M. Somcé doit remettre son tablier au chef de l'État. Qu'on nous trouve un bon ministre de la Santé qui vienne calmer.
Vous demandez la démission presque de tout le monde,
non? Oui, mais écoutez, c'est d'abord à la place, moi, je demande la démission d'abord de Touadéra parce que c'est lui qui est incompétent, c'est lui qui a nommé ces incompétents qui font mourir le peuple. Et ils affament le peuple, ils les empêchent d'avoir des soins de santé. Et vous allez voir, d'ici peu, si les choses continuent comme ça, c'est... Nous revenons à la case de départ comme dans les années 90, comme dans les autres années qui sont écoulées, sous Kolingba, sous Patassé, et là, avec Touadéra, ce sera très difficile et je pense que c'est la goutte d'eau qui verra partir Touadéra
du temps
palais
fait de faux,
avant la fin de son mandat.
Nous allons boucler ce chapitre. Revenons maintenant au bilan sécuritaire. Puisque nous l'avons déjà annoncé à l'entame de notre émission du Premier ministre, un an, le 7 février 2022 et le 7 février 2023, un an jour pour jour que le Premier ministre Félix Tshisekedi a été nommé aux commandes du gouvernement. Son bilan sécuritaire d'abord, vous avez 2 minutes.
Le bilan sécuritaire de Moloua est nul. C'est d'abord ici avec le ministre de l'Éducation qui a dit que ils ont sécurisé 100% du territoire centrafricain.
Le ministre de la Jeunesse.
Et aujourd'hui, lorsque j'entends Ngwandika et autres se dire que ce sont des bandits, ce sont des actes de guerre, des gens qui ont pris des armes et qui combattent un régime établi qui est incapable de défendre les citoyens centrafricains. Le lundi, je revenais du PK-45,
J'ai vu les GP, les soldats avec leurs alliés russes fouiller les véhicules qui transportent le bois de chauffe pour rentrer à Bangui au niveau de du PK-30 sur la colline. Et mais quand j'ai vu ça, il y a un soldat qui m'a reconnu. Oh, député Benunga, il m'a salué. Alors que c'est à l'intérieur du pays, la sécurité du citoyen centrafricain aujourd'hui, lorsqu'il se lève, que ce soit dans les quartiers, que ce soit dans ma circonscription à Bimbo 3. Mais c'est, veuillez m'excuser le terme, c'est pire que la merde. Et je pense que aujourd'hui, les centrafricains qui ont élu Touadéra le regrettent amèrement. Et si Touadéra s'aventure pour un soi-disant troisième mandat parce qu'il est en train de trafiquer la Constitution, je le battrai au premier tour.
Monsieur, sur le plan sécuritaire, vous avez compris, hein, nous avons reçu beaucoup de plaintes et nous avons su que déjà à Boussangoua, vous êtes au courant de l'attaque contre les positions de forces armées centrafricaines à Boussangoua, à Ndélé et bien d'autres localités. Est-ce que le bilan maintenant, le bilan sécuritaire du Premier ministre, si on vous demande de dire un mot, vous allez dire quoi?
Nous avons affaire à une guerre asymétrique. C'est-à-dire les gens restent quelque part cachés, des bandits, des criminels, et ils sortent comme ça, ils surprennent les gens, ils font des embuscades et ils fuient. Mais si le bilan, si la sécurité n'est pas en République centrafricaine, mais il n'y aurait pas l'Assemblée nationale, le pays serait déjà tombé, aucune institution.
Mais on parle de la situation dans l'intérieur du pays, hein.
Donc, le pays est en sécurité. Et le pays est sécurisé à 100%. Même aux États-Unis, même ailleurs dans les pays les plus puissants, militairement les plus puissants du monde, il y a toujours des escarmouches. Il y a toujours des terroristes. Il y a toujours des gens qui inquiètent certaines populations. Aujourd'hui, le pays est stable. Le pays est stable. Et nous ne sommes pas venus sur cette tribune-là pour cracher dans les mains de la Russie, qui nous aide, qui arme nos FACA.
Les FACA ne sont pas armés par les Russes. Les Russes emmènent leurs armes et les FACA sont mal armés.
Calmez-vous.
Au lieu de donner les armes aux Russes, donnons les mêmes armes là aux FACA et les FACA rétabliront la paix en Centrafrique.
Aujourd'hui, la seule puissance qui peut être une parmi les deux premières puissances mondiales, c'est la Fédération de la Russie.
De la Russie.
Calmez-vous. Gardez-vous.
La République centrafricaine. Et c'est cette Russie qui a combattu le nazisme dans le monde pour libérer le monde entier lors de la Deuxième Guerre mondiale.
Est-ce qu'on ne peut pas, aujourd'hui, peut pas ramener le débat sur le plan
national? La République centrafricaine. Sur le plan de réarmement des forces.
S'il vous plaît, monsieur Benunga.
S'il vous plaît, monsieur Benunga. Oui, reprenez, monsieur
Benunga. Je ne peux pas. On est mieux protégé que par notre armée.
En tant que centrafricain, je ne peux pas concevoir qu'un élu du peuple.
Ils envahissent un État
sur son engagement. Monsieur Benunga, souffrez.
Mais jusqu'à preuve du contraire, nos forces de défense et de sécurité intérieure sont soutenues par la Fédération de Russie. C'est grâce aux dons en armement, en véhicules blindés,
ils prennent en avion, l'or, le diamant, ils pillent la République centrafricaine.
Mais vous,
les Rwandais,
monsieur Bendunga,
pillent la République centrafricaine.
Je vous en prie, est-ce qu'on peut tenir le débat dans la sérénité?
Donc,
pour moi, je suis la compréhension et la lenteur du peuple.
Je suis serein.
Je vous en prie.
Je le suis plus que
le pays est en sécurité. Nous avons des jeunes recrues au niveau de l'armée nationale, des forces armées centrafricaines FACA qui sont recrutées massivement et qui protègent le pays.
Mais sur le
plan, qui tombent sur le théâtre des opérations que M. Bendunga insulte leur mémoire aujourd'hui.
Je n'insulte pas la mémoire des soldats centrafricains. Je demande qu'on les arme comme peuple. On a armé que les Russes. Ils n'ont même pas l'armement pour pouvoir mener leur mission.
Monsieur Ngwandika, Monsieur Bendunga, vous savez, avec tout ce que vous avez dit, soutenir les forces armées centrafricaines, etc., et revoir
la diplomatie du Premier ministre ou du gouvernement, et surtout la diplomatie, c'est pour le président de la République. Est-ce que la diplomatie est au beau fixe aujourd'hui pour prétendre pour que la République centrafricaine, avec ses voisins, puisse avoir un bon moment, une bonne collaboration pour pouvoir mettre fin à l'insécurité que vit le peuple?
Le président de la République, au moment où nous parlons là, est en voyage à Luanda dans ce cadre. Nous n'avons pas de problème avec le Cameroun. Nous n'avons pas de problème avec le Soudan, ni avec nos voisins. Nous n'avons pas de problème spécial avec.
Mais maintenant, il faut.
Ni avec les pays de la CEMA. C'est vous qui dites, si vous dites.
Est-ce que vous le savez aujourd'hui que l'insécurité, beaucoup plus, ça provient de certains pays voisins pour ne pas mettre
fin à tout ça. Mais ça a toujours été depuis. La nuit des indépendances.
Vous ne pensez
pas. Il y a eu des commissions paritaires depuis la nuit des indépendances jusqu'à aujourd'hui. Et donc, tant qu'il n'y a pas une vraie démocratie africaine au niveau de la sous-région, il va y avoir toujours ce genre de scaramouches. Il faut qu'il y ait la démocratie au Tchad, la démocratie au Soudan, la démocratie au Cameroun, la démocratie en Centrafrique. Dans tous ces pays-là, ce sont des pays dits démocrates, sans vrais démocrates au-dessus de leur pays. Et donc, il y a des poches de résistance au Soudan contre le gouvernement soudanais, et dont certaines trouvent refuge sur notre territoire pour combattre le gouvernement soudanais. Il y a une petite base arrière au niveau de la République centrafricaine pour combattre le gouvernement tchadien.
Ah bon?
Et vice-versa. Il y a également des rebelles centrafricains au niveau du Tchad pour combattre ici. On a vu ça également au niveau de Congo-Brazzaville et même du Congo démocratique. Il y a eu des gens qui ont traversé la rive pour venir protéger un régime, celui de Patassé. Et donc, il faut qu'on anime et qu'on réanime les commissions paritaires de manière à ce que ce genre de conflit s'efface. Et le maître mot, c'est la démocratie.
La démocratie, voilà. Mais la diplomatie. Quelques mots sur la diplomatie du Premier ministre, enfin du Président de la République, qui a délégué le Premier ministre pour faire ce travail pendant un an.
Mais c'est la ministre
des
Affaires étrangères qui a la charge de la diplomatie centrafricaine sous la direction de Moloa et de Touadéra. Mais tous les trois ont failli à leur mission. Il n'y a pas de diplomatie en République centrafricaine. Et s'il y a une bonne diplomatie, vous avez le FMI, la Banque mondiale, les partenaires de la République centrafricaine, les partenaires au développement, certains vont arrêter leurs aides à la République centrafricaine, mais c'est parce que nous n'avons pas de diplomates qui savent protéger les intérêts de la République centrafricaine, défendre les intérêts de la République centrafricaine. Le président de la République allait à Luanda pour aller larmoyer là-bas. Qu'est-ce qu'on a fait par rapport à la sous-région, par rapport à nos voisins directs, dont le Congo fait partie? Luanda est là-bas loin. La bonne diplomatie doit commencer par les relations de la République centrafricaine avec ses voisins, ses six voisins, les deux Soudans, le Tchad, le Cameroun, Brazza, le RDC. Alors, nous avons le Rwanda qui attaque actuellement le RDC. Le Rwanda a pion sur rue ici et contrôle Zongo. Est-ce que le RDC, notre voisin, sera content avec nous? Vous voyez déjà, la diplomatie centrafricaine est la diplomatie la plus piteuse au monde et la plus piteuse de l'Afrique centrale.
Mesdames et messieurs, et c'est la fin de ce débat politique d'aujourd'hui. Merci beaucoup à vous. Merci à toutes et à tous d'avoir pris part à ce rendez-vous. Merci aussi à vous, Monsieur Fidel Gwandjika, d'avoir été de nôtre.
Je vous en prie.
Merci aussi à vous, Monsieur José Bendonga.
Merci, Armand.
Nous avons analysé et décrypté le bilan de l'an 1 du Premier ministre Félix Tshisekedi sur le plan économique, sécuritaire et diplomatique. Merci à tous d'avoir été de nôtre tout au long de ce débat. Merci aussi à nos invités d'avoir répondu à notre invitation. Rendez-vous à la semaine prochaine, même heure et même fréquence, pour un autre sujet. Portez-vous bien, car on ne vit qu'une seule fois. Bon week-end à tous.